Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Vous avez 5 minutes ? Oui, oui, il existe un droit de l'espace avec ses textes, sa jurisprudence. Une matière qui relève parfois de la science-fiction quand Elon Musk promet d'utiliser ses fusées pour relier les grandes métropoles de la planète, ou de coloniser Mars et la Lune. Philippe Aquileas, professeur de droit à l'Université Paris-Sud, nous raconte comment ces projets bousculent le droit spatial et les rapports de force. Bonjour Philippe Aquileas.
Bonjour.
Déjà, première question, ça consiste en quoi le droit spatial ?
Alors, le droit spatial ou le droit de l'espace englobe l'ensemble des règles juridiques qui encadrent les activités des États et, par ricochet, des entreprises privées dans l'espace extra-atmosphérique et tous les services qui sont fournis depuis l'espace vers la Terre.
Vous êtes plutôt le code civil ou le code pénal de l'espace ?
Alors actuellement, le droit de l'espace est avant tout un droit international, mais la France et d'autres pays se sont dotés de lois spatiales nationales qui relèvent plutôt du domaine civil.
Elon Musk a annoncé que sa fameuse fusée SpaceX, qui doit servir à notamment coloniser la Lune et aussi Mars, va aussi servir à un système de transport pour relier les grandes villes de notre planète. Est-ce que le droit de l'espace prévoit ce cas de figure ? Et sinon, qu'est-ce qu'il faudra faire ?
Alors, ce qui est intéressant avec ce projet de fusée, en fait, de véhicule suborbital, qui ferait du transport de personnes et de fret de point à point, c'est-à-dire d'un point du globe à un autre point du globe, donc ce véhicule, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est soumis au droit de l'espace ou pas ? A priori, oui, parce que une partie du trajet se fera dans l'espace extra-atmosphérique, donc ce seront les règles du droit de l'espace qui s'appliqueront, mais s'il s'agit d'une activité de transport international, on peut aussi appliquer le droit du transport, et plus particulièrement le droit du transport aérien qu'on étendrait en fait à ces nouveaux véhicules. La principale question qui se pose est celle de la responsabilité pour dommages, dans la mesure où nous sommes face à des activités qui sont extrêmement risquées. Non pas seulement responsabilité pour dommages causés aux passagers, mais surtout pour dommages causés aux personnes et aux biens au sol. Donc nous avons un régime de responsabilité qui est extrêmement strict, qui pèse toujours sur l'État. L'État qui lance le véhicule. Ce régime de responsabilité nécessite la mise en place d'une autorisation de lancement et d'opérations en orbite. Donc la première question, c'est l'autorisation de développer cette activité, d'opérer en fait donc le véhicule à des fins de transport. Et puis en cas de dommage, imaginez que si le véhicule s'écrase à l'arrivée sur Paris ou sur New York, les dommages seraient considérables. Donc il y a tout un régime de responsabilité qui est prévu par le droit international.
Elon Musk a aussi des projets donc, de colonisation de la Lune et de Mars. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans le droit pour ces explorations ? À qui appartiennent ces terres ? C'est au premier qui arrive dessus ?
Alors justement, l'objectif du traité de l'espace qui a été signé en 1967, c'était d'éviter que la première puissance qui atteigne la Lune ne puisse proclamer sa souveraineté sur la Lune. Ce traité est complété par l'accord sur la Lune de 1979, et nous avons en fait deux règles principales qui sont posées, la non-appropriation de l'espace, aussi bien par des États que par des personnes privées, et le fait que la Lune et les corps célestes soient déclarés patrimoine commun de l'humanité.
Et comment se décidera la manière dont seront régies les activités sur Mars si Elon Musk arrive à envoyer ses fusées, ses vaisseaux cargo sur Mars? À qui devra rendre des comptes? À qui devra demander une autorisation? Ou à qui appartiendra ce qu'il pourra exploiter sur place?
Alors déjà, si Elon Musk lance le vaisseau depuis le territoire américain, il devra obtenir une autorisation de l'État américain pour lancer l'engin à destination de la Lune ou de Mars. Ensuite, lorsque l'engin se trouve dans l'espace ou sur qu'il atterrit, donc qu'il allume ou qu'il se trouve sur Mars, en fait, la loi applicable est la loi de l'état d'immatriculation de l'objet spatial. J'imagine que l'objet spatial sera immatriculé aux États-Unis, donc tout le vaisseau ainsi que son équipage et les activités qui se déroulent autour du vaisseau sont sous juridiction américaine. Donc c'est la loi américaine qui s'appliquera à une colonie mise en place par Elon Musk, dans la mesure où les vaisseaux en fait qui permettront aux personnes de s'établir sur Mars ou sur la Lune seront immatriculés aux États-Unis. Et s'il y a des installations lunaires ou martiennes, il faudra aussi les immatriculer. J'imagine qu'on les immatriculera aux États-Unis. Et auquel cas la loi américaine s'appliquera aussi à la vie de la colonie.
Ce qui est passionnant, c'est que vous êtes sur un domaine qui s'organise en fonction des projets qui sont un peu de la science-fiction. Comment vous travaillez ça? Comment vous projetez dans ce futur-là?
Alors, il y a des règles de base qui, pour le moment, ne bougent pas. Donc, les grands principes qui sont posés par le traité de l'espace, la responsabilité, la non-appropriation, la liberté de l'espace. Donc, on utilise toujours ces grands principes de base. Et puis, comme les projets, en fait, se développent sur des périodes très longues, dès à présent, nous réfléchissons effectivement aux questions d'organisation des colonies spatiales, par exemple, ou bien aux questions du tourisme suborbital. Donc, on essaye toujours de rester le plus proche possible des textes du droit de l'espace, mais parfois, ceux-ci ne sont pas clairs, comme notamment en matière d'exploitation des ressources naturelles des corps célestes, où là, nous sommes face à des problèmes d'interprétation. Là, le juriste est un peu limité face à l'absence de pratiques juridiques. Il y a très peu de textes qui s'appliquent, et donc, j'ai envie de dire que dans ces cas-là, malheureusement, c'est le plus fort qui impose sa vision. Donc, si je reprends l'exemple de l'exploitation des ressources naturelles des corps célestes, les Américains ont adopté une loi pour autoriser cette activité, alors que la majorité des pays considèrent qu'elle est illicite, par contraire au principe de non-appropriation. Mais les Américains ont adopté leur loi, ils ont déjà donné des autorisations, le Luxembourg fait la même chose, donc on voit bien que le mouvement est plutôt en faveur de ceux qui prennent des initiatives.
Ce que vous me dites, c'est qu'il y a une volonté de garder l'espace comme un espace de bien commun, mais qu'il y a déjà des guerres qui sont en train de se jouer pour anticiper l'avenir.
Le traité de l'espace, c'était un traité extrêmement idéaliste qui plaçait d'ailleurs la paix, l'humanité, la coopération au cœur du texte. Aujourd'hui, on voit que effectivement, il y a d'abord une militarisation de l'espace qui est une réalité, et puis il y a le développement d'activités commerciales qui vont jusqu'à maintenant envisager l'établissement de mines spatiales. Donc on voit que l'espace peut devenir une nouvelle zone de tension.
Et est-ce que des projets comme ceux d'Elon Musk font avancer les choses, même du point de vue du droit?
Forcément, ils nous obligent à penser le régime juridique d'activités nouvelles ou en phase de développement. Et puis, ils obligent aussi les États à prendre des règles de droit national. Donc, on voit que le droit est de plus en plus national. alors que jusqu'alors, il était essentiellement de nature internationale.
Très bien, je vous remercie beaucoup.
Binge audio.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.